الحمد لله الذي من علينا بدين هو أكمل الأديان في العبادات والمعاملات، وأقومها بمصالح الخلق الدينية والدنيوية الفردية والجماعية في جميع الحالات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فاطر الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى أعلى المقامات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما توالت الدهور والأوقات، وسلم تسليما. أما بعد، إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنواصل إن شاء الله تعالى دروسنا في شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لشيخنا عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، بشرح الشيخ سليمان ابن عبد الله القصير حفظه الله تعالى. طيب، فما زلنا في باب أو في كتاب الموارث، كتاب الموارث. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وأسباب الإرث ثلاثة، أسباب الإرث ثلاثة. الأول النسب. قال الشيخ سليمان حفظه الله: النسب هو القرابة، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: أصول وفروع وحواش. فالأصول الأب والجد وأب الجد وإن بعد، وكذلك الأم وأم الأم وأم الأب وإن بعدت. والفروع الابن والبنت وأبناء الأبناء وبنات الأبناء وإن نزلوا. والحواشي الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم وأعمام الأب وبنوهم وأعمام أبي الأب وبنوهم وإن نزلوا. Donc on poursuit inshallah ta'ala l'explication de Manhaj al-Salikin de l'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala, et on est toujours dans le grand chapitre des héritages. Il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, les causes de l'héritage sont au nombre de trois. Il y a trois causes d'héritage. La première, an-nasab, la filiation, le lien familial, le lien de sang. Taïb, en arabe on dit an-nasab, ou al-qaraba, la proximité familiale. Et cette filiation est de trois types. Une filiation qu'on dit au sol, yani les origines. Puis on a ce qu'on appelle al-furu', les branches. Hein, les origines, les branches. Puis il y a ce qu'on appelle al-hawashi. Al-Hawashi. Voyez, donc comment on pourrait traduire Al-Hawashi? Allahu A'lam. Donc on va juste garder le mot comme ça et on expliquera, Inch'Allah Ta'ala. On pourrait dire les collatéraux. Naam. Les collatéraux. Voyez. Donc on a l'usul, les origines. On a le furu', les branches. Et on a Al-Hawashi, les collatéraux. Taïeb. Donc, qui sont déterminés par le mot al-usul? Il dit le cheikh, les origines, eh bien, ce sont le père, le grand-père, le père du grand-père, et ainsi de suite. Taïeb.
Al-Usul, on a le père, le grand-père, l'arrière-grand-père, et tu peux monter encore. D'accord? Également, on a aussi la mère. La mère de la mère. Ou la mère du père. Et tu peux monter encore. Vous voyez? Donc la mère de la mère, ou la mère du père, les deux grands-mères. Et tu peux monter plus haut. Puis on a les furu', les branches. Donc les branches, ça représente qui? Ça représente le fils, la fille, les enfants des fils, les filles des fils, et tu peux descendre. D'accord? Donc, le fils, la fille, et les enfants, garçons ou filles des fils, ainsi que les petits-fils, et ainsi de suite. Ou les hawashi, donc les collatéraux, c'est qui? C'est les frères. Ainsi que leurs enfants, donc les frères et les neveux, et les fils des frères. C'est aussi les oncles paternels, ainsi que leurs enfants, donc les cousins du côté de l'oncle paternel, ainsi que les oncles, les ab, c'est-à-dire ceux qui sont frères de ton père, mais demi-frères de ton père, d'accord? Les demi-frères de ton père, païen, du côté du père, du père de ton père, na'am, font partie aussi des collatéraux, des hawashi. Puis on a aussi les oncles du père, voyez, a'mam abil ab. Il y en a les oncles du grand-père. D'accord? Donc juste avant, je corrige ce que j'ai dit. A'mam ul ab. C'est les oncles du père, les oncles paternels du père. Donc tes oncles à toi, les oncles de ton père, même les oncles de ton grand-père. Et tu peux remonter comme cela. Vous voyez? Ça, c'est el-hawashi. Donc on a vu an-nasab, la filiation, qui est une des causes d'héritage, se compose en trois catégories. El-usul, les origines, el-furu', les branches, et enfin, el-hawashi, les collatéraux. ثم قال والنكاح الصحيح أي عقد الزوجية الصحيح ولو لم يحصل به وطء ولا خلوة أما النكاح الباطل فلا يورث به. Deuxième cause d'héritage, le mariage valide. Le mariage valide. طيب. C'est-à-dire le contrat de mariage valide. Pourquoi on précise le contrat de mariage valide? Eh bien, premièrement, parce que tant que le contrat de mariage a été validé, même s'il n'y a pas eu de rapport conjugal ou d'isolement entre le mari et la femme, si l'un des deux décède, l'autre aura droit à un héritage. D'accord? Du moment où le contrat de mariage a été effectué. Est-ce que c'est bon?
S'il n'y a aucun qui est mort, il n'y a pas d'héritage.
Mais s'il n'y a pas de mort, il n'y a pas d'héritage. C'est logique. Vous voyez? Non. Concernant le contrat de mariage qui est invalide, là, bien sûr, il n'y aura pas d'héritage. S'il y a un décès, mais on s'aperçoit que le contrat de mariage n'est pas valide, il est caduque, ici, il n'y a pas d'héritage. طيب إذا يشترط أن يكون النكاح صحيحا الذي خرج به النكاح الفاسد والباطل وهو الذي يفقد شرط من شروط النكاح أو يتزوج المرأة وهي في العدة أو يجعلها خامسة وهكذا. Donc, on a dit. Deuxième cause d'héritage, un contrat de mariage valide. Ce qui exclut donc un contrat de mariage qui est caduc, qui n'est pas valide. Voyez? Dans lequel, par exemple, il manque une des conditions du mariage. Ou dans lequel, par exemple, la femme a été épousée alors qu'elle était encore dans son dans sa durée de idda, dans sa durée de viduité. Après un divorce, par exemple. Ou alors, l'homme a épousé une cinquième femme. Il n'a pas le droit, il a le droit à quatre femmes maximum. Donc lui, il a épousé une cinquième femme. Donc ce mariage-là, ce contrat de mariage avec la cinquième, il n'est pas valide. D'accord? Donc s'il y en a un des deux qui meurt, il n'y a pas d'héritage parce que le contrat à la base, il n'est pas valide. Jaïd? Alhamdulillah. Soumaqala al-wala.
Imaginons, ils sont mariés avec la cinquième femme. La cinquième femme, elle meurt. Et la quatrième aussi. Il y a un héritage ou pas?
Par rapport à la quatrième, parce que le contrat avec la quatrième, il était valide, mais avec la cinquième, il n'était pas valide. Taïeb, Alhamdulillah. Al-wala, قال, al-wala huwa 'usubatun sababuha ni'matu al-mu'tiqi 'ala raqiqihi bil-'itq, wal-mu'tiqu yarithu 'itqahu duna al-'aks. Yarithu 'itqahu duna al-'aks. Taïeb. Troisième cause, donc troisième et dernière cause d'héritage, ce qu'on appelle el-wala. Donc el-wala, qu'est-ce que c'est? El-wala, c'est le lien ici qui sera créé lorsque le maître va affranchir son esclave. Lorsque le maître va affranchir, pardon, son esclave. Donc le maître qui a affranchi cet esclave-là, si l'esclave il meurt, il a droit à l'héritage de son esclave. Il a droit à un héritage de son esclave. Yarithu atiqahu dun al-aks. Donc si l'esclave ou l'ancien esclave décède, l'ancien maître pourra avoir un héritage de cet ancien esclave. Et pas l'inverse. L'inverse n'est pas possible. D'accord? Al-an qal wa mawani'uhu thalatha. L'awwal, al-qatl. Al-qatl. Ay mawani'u al-irth. Wa hiya al-umur allati wujuduha yamna'u al-muttasifa biha min al-irth. Wal-qatl al-mani'u min al-irth. هو القتل بغير حق وهو المضمون بقود أو دية أو كفارة كالعمد وشبه العمد والخطأ وما أجري مجرى الخطأ وذلك لحديث عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء ليس لقاتل شيء أخرجه ابن ماجه. وقال ابن حجر في تلخيص سنده منقطع. وأخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في حديث طويل بلفظ ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا ولا يرث القاتل شيئا. وفي سنده محمد ابن الراشد الدمشقي قال أزيلعي في نصب الراية فيه مقال. طيب. Puis on va passer ici à l'évocation des trois obstacles à l'héritage. On a vu les trois causes de l'héritage. On va évoquer maintenant les trois obstacles, les trois choses qui empêchent l'héritage. D'accord? La première chose, le meurtre. Le meurtre, le qatl. Ou l'homicide. D'accord? L'homicide. Taïeb. Donc, les obstacles à l'héritage, c'est-à-dire les choses dont la présence empêche l'individu qui est caractérisé par ces choses-là, d'hériter du défunt. Première chose, donc, on a dit l'homicide. Al-qatl. Le fait de tuer quelqu'un. D'accord? Donc, celui qui tue une personne, si c'est un homicide volontaire, il ne pourra pas hériter de celui qui l'a tué. Taïb. Non. Donc c'est un des empêchements, un des obstacles à l'héritage, qui est donc, bien sûr, l'homicide de manière injuste, sans droit. Le fait de tuer quelqu'un sans droit, injustement. Et c'est l'acte qui va forcément impliquer soit un qisas, une peine légale, d'accord? Ou soit le prix du sang, soit une expiation, d'accord? Tel que l'homicide volontaire, d'accord? Ou le fait de tuer quelqu'un involontairement, en ayant frappé quelqu'un, mais sans avoir l'intention de tuer, d'accord? Ou ce qu'on appelle l'erreur qui a quand même amené à une mort, ou autre type de qatl, yani qui sont soumis également au même jugement que el-khata, l'erreur. Et cela en vertu du hadith de Amr ibn Shu'aib, selon Umara ibn al-Khattab, qui a dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: il n'y a pas pour un tueur d'héritage. Il n'y a rien pour le tueur. D'accord? Al-Qatil, c'est le tueur. D'accord? Il n'y a rien pour lui d'héritage. Hadith rapporté par Ibn Majah. Hein? Mais Ibn Hajar, il dit, dans Talkhis, il dit, sa chaîne de transmission, elle est interrompue. Également rapporté par Abu Daoud. Ça y est. Donc, Abu Daoud, naam, il a rapporté un hadith d'Amr ibn Shu'aib. Selon son père, selon son grand-père, un hadith qui est long, dans lequel il dit: le tueur n'a rien. C'est-à-dire, le tueur n'a droit à rien de l'héritage. Et s'il n'a pas d'héritier direct, eh bien, les gens les plus proches de lui hériteront de lui. Et le tueur n'aura rien. Le tueur n'héritera rien de lui. D'accord? Dans sa chaîne de transmission, on a Mohammed ibn Rachid al-Dimashqi et Zaylari, il dit que ce rapporteur, ce transmetteur de hadith, son cas est à étudier. Al-Muhim. Thumma qala, wa qala ibn Qudama fil Mughni: أجمع أهل العلم على أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئا إلا ما حكي عن سعيد بن المسيب وابن جبير أنهما ورثاه وهو رأي الخوارج، لأن آية الميراث تتناوله بعمومها فيجب العمل بها فيه، ولا تعويل على هذا القول لشذوذه وقيام الدليل على خلافه. نعم. طيب. Il dit Ibn Qudama dans Al-Mughni, il dit que les gens de science sont unanimes sur le fait que celui qui a commis un homicide volontaire ne peut pas hériter de celui qui l'a tué. Taïeb. On a quand même, il y a certains avis, celui notamment de Saïd ibn Musayyab et de Ibn Jubayr, qui disent que celui qui a commis l'homicide volontaire, il a droit quand même à l'héritage de celui qui l'a tué. Taïeb. Et c'est aussi l'opinion des Khawarij. C'est aussi l'opinion du groupe des Khawarij. Parce qu'ils prétendent que le verset de l'héritage, il englobe aussi le tueur, de façon générale. Donc il est obligatoire d'appliquer ce verset. Mais, bien sûr, on n'a pas le droit de s'appuyer sur cet avis-là à cause du fait que c'est un avis qui est très marginal et que les preuves vont à l'encontre de cet avis-là. Voyez. Thumma ar-riqqu. Wa riqquhu 'ajzun hukmiyyun. يقوم بالإنسان سببه الكفر، والرقيق هو المملوك، والمملوك لا يملك لأن ما في يده لسيده، وإن ملك فملكه ضعيف يرجع إلى سيده ببيعه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من ابتاع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، أخرجه البخاري. فكذلك بعد موته يرجع ماله إلى سيده، ولو أعطي الرقيق ميراثا من قريبه لم كان لسيده أخذه، وسيده أجنبي عن الميت. Deuxième empêchement, obstacle à l'héritage, arriqo, donc l'état d'esclave, ou la condition d'esclave, arriq, la condition d'esclave. Taïeb, donc c'est arriqo, c'est une incapacité dans le jugement qui est chez la personne, et cela est causé par la mécréance. Ça, c'est la définition, yani, de arriq. Chez le jargon technique. Donc, un raqiqo, eh bien, c'est l'esclave. L'esclave, on dit raqiq ou mamlouk, c'est un esclave. Et l'esclave ne possède rien. Parce que ce qu'il possède en vérité appartient à son maître. Ce que l'esclave possède appartient à son maître. Et s'il possède quelque chose, eh bien, sa possession, elle est faible. Elle revient à son maître lorsque il sera vendu. Et cela en vertu du hadith d'Ibn Omar, radiallahu anhuma, marfou'an, qui remonte jusqu'au prophète, alayhi salatu wassalam, dans lequel il dit: celui qui achète un esclave, et cet esclave-là, il a des biens, et bien ses biens reviennent à celui qui l'a vendu, c'est-à-dire à son maître, à son ancien maître. Donc si cet esclave-là, qui a été acheté à des biens, ses biens reviennent à son vendeur. Sauf si l'acheteur émet comme condition qu'il garde ses biens ou qu'il récupère ses biens. D'accord ? Donc le hadith rapporté par Al-Bukhari. Et également après sa mort, après la mort de l'esclave, ses biens reviennent à son maître. Et si on donne à l'esclave un héritage, une de ses proches par exemple, bien le maître pourra également se servir et s'accaparer de l'héritage de son esclave, alors que à la base, le maître, yani, c'est un étranger par rapport aux morts, yani, aux proches de l'esclave. Le maître, yani, par rapport aux proches de l'esclave, c'est un étranger. Malgré ça, il aura le droit de récupérer l'héritage de son esclave, d'accord. Donc le deuxième obstacle à l'héritage, l'état d'esclavage. ثم واختلاف الدين فلا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما. لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه مرفوعا: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. أخرجه البخاري ومسلم. Et enfin, troisième et dernière cause d'empêchement de l'héritage, la différence de religion. La différence de religion. C'est-à-dire que le musulman ne peut pas hériter du mécréant. Et le mécréant ne peut pas hériter du musulman. Et cela en vertu du hadith d'Oussama ibn Zayd, radiallahu anhu, qui remonte jusqu'au prophète, alayhi salam, qui a dit: le musulman n'hérite pas du mécréant, et le mécréant n'hérite pas du musulman. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Voyez? Donc on a cité ici les trois obstacles à l'héritage: l'homicide, l'état d'esclave, l'esclavage, et enfin la différence de quoi? De religion. ثم قال: وإذا كان بعض الورثة حملا أو مفقودا أو نحوه عملت بالاحتياط. أي إذا كان في الورثة حمل فنحتاط ونوقفه له الأكثر من نصيب ذكرين أو أنثيين، لأنه يمكن أن يكون ذكرا أو أنثى، أو ذكرين أو أنثيين، أو ذكرا وأنثى. وكذلك المفقود الذي انقطع خبره ولم يدرى هل هو حي أو ميت، فإذا طلب الورثة قسمة التركة تقسم ويحفظ له نصيبه حتى يحكم بموته. طيب، بيجي الأوتور رحمه الله تعالى، si parmi les héritiers du défunt on a des femmes enceintes, on a des femmes qui sont enceintes, ou on a des héritiers mais on ne sait pas où ils sont, on n'a aucune nouvelle, on ne sait pas où ils se trouvent, ils sont perdus, on ne sait pas s'ils sont morts ou sont vivants. Dans ce cas-là, comment on fait pour le partage de l'héritage? Eh bien, on va faire preuve de précaution. C'est-à-dire que lorsque on a donc une ou des femmes enceintes parmi les héritiers, on fera preuve de précaution et on va mettre de côté la part probable la plus grande. Yani la plus, la plus grande, la part probable la plus grande pour l'enfant ou les enfants qui sont dans le ventre et qui, donc, qui va naître ou qui vont naître. Donc on va choisir soit la part de deux garçons ou soit la part de deux filles. On va mettre de côté, on va donc, comment dirais-je, considérer et mettre de côté par précaution soit la part de deux garçons, il y en a de deux garçons, hein, ou soit la part de deux filles. On choisira la part la plus profitable et on la mettra de côté. D'accord? Parce qu'il se peut que l'enfant qui va naître sera soit un garçon, il se peut qu'il soit une fille, il se peut qu'il y ait, que ce soit deux jumeaux, deux garçons, ou deux filles, ou alors jumeaux, filles et garçons. D'accord? Donc on mettra de côté la part la plus profitable, soit celle de deux garçons, soit celle de deux filles. On regardera de ces deux parts laquelle est la plus profitable et la plus grande, et on la mettra de côté pour l'enfant ou les enfants. Et également pour le mafkoud. Le mafkoud, c'est l'héritier, mais on ne sait pas s'il est vivant ou mort. D'accord? Et dont les nouvelles ont été coupées. Donc on ne sait pas s'il est vivant, encore une fois. Donc si les héritiers ne veulent pas attendre et veulent que l'héritage soit partagé, yani avant qu'on sache où est la personne, eh bien, on va faire le partage, mais on va sauvegarder, mettre de côté par précaution la part de cette personne-là. D'accord? Jusqu'à ce qu'on soit sûr et certain qu'elle est morte. Donc, si un jour on apprend qu'elle est morte, alhamdoulilah, on fera le partage avec le reste des héritiers. Vous voyez? Mais sinon, on la met de côté. Comme ça, si un jour il revient, eh bien, il prendra sa part qui lui revient. Jayid? C'est bon? Alhamdoulilah. ووقفت له إن طلب الورثة قسمة التركة. هنا في المتن زيادة عملت ما يحصل به الاحتياط، ولم أفهم هذه العبارة إلا أن تكون تكررت خطأ من الناسخ والله أعلم. إذن قال ووقفت له إن طلب الورثة قسمة التركة على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله. Donc il finit l'épître des héritages ou le chapitre des héritages en disant donc on va mettre de côté cette part-là, que ce soit pour l'enfant ou les enfants ou les personnes perdues, yani si les héritiers demandent qu'on fasse le partage, voyez, à ce moment-là. Et cela donc en fonction donc de ce que les juristes et les savants des héritages auront énoncé comme partage et comme règle régissant le partage. Il dit le cheikh Suleyman Fidallah Ta'ala, dans le texte, il y a un rajout, une phrase qui est en plus, qui est Umilat ma yahsulu bihi l'ihtiyat. Donc on va faire preuve, on va agir de sorte, yani qu'on soit précautionneux par rapport soit à ces enfants qui sont encore dans le ventre de leur mère ou aux personnes qui sont égarées ou perdues. Hein. Mais quoi qu'il en soit, je ne comprends pas cette phrase. Yani, ou peut-être que cela a été répété par erreur par Yani al-Nasikh celui qui s'est chargé d'écrire à la main yani le livre Manhaj al-Salikin de l'imam Sa'di. Wallahu ta'ala a'lam. On arrête là, inshallah ta'ala. Donc on a terminé, alhamdulillah, le grand chapitre des héritages. Et on débutera la semaine prochaine un nouveau chapitre. Bi'idhnillahi azza wa jal. والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.